Bonsoir. Publication du rapport sur la révisitation des contrats miniers. Ce rapport de 500 pages est déjà publié il y a près d'une semaine. Le rapport n'est pas brillant pour la majorité de la soixantaine de contrats miniers passés aux pleines fins par une commission gouvernementale. Presque la moitié de ces contrats devraient être résiliés. Et que dit exactement ce rapport? Que peuvent attendre concrètement les Congolais de ce travail? Nous en parlons dans cette émission, mais avant tout, une idée de vos premiers messages sur la question. Je parle des auditeurs et internautes de Radio Okapi. Parmi eux, Alphonse Marcano, étudiant en deuxième licence genre et développement à l'UOR Butembo, c'est une université. Il pense que ce rapport constitue un enjeu et une opportunité pour le développement du peuple congolais. De Bukavu, François Makiambe soutient qu'il faut non seulement publier le rapport, mais encore aller jusqu'au bout en appliquant les résolutions, se dit-il, pour qu'on ressente l'effet de la révisitation. Et pour Mwanza Robert de Lubumbashi dans le Katanga, la plupart des personnalités signataires des contrats miniers dits léonins sont connues dans les institutions politiques. Ces personnes ont, selon lui, empoché de grosses sommes d'argent dans ces contrats. Et que fera le gouvernement à l'endroit de ces personnes s'il annulait ces contrats? C'est donc sa question. Nous recevons pour le débat, dans ce dialogue entre Congolais, Simon Toumawaku, ministre honoraire des mines et hydrocarbures. Il intervient en tant que président du conseil d'administration de DRC Copper and Cobalt Project, DCP. Nous avons aussi Jean-Pierre Mouteba. Il est, lui, président du conseil consultatif de l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives ITE, ainsi que M. Valéry Moukassa. Il représente en fait le gouvernement dans cette émission parce qu'il est conseiller juridique du ministre des Mines. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Publication du rapport sur la révisitation des contrats miniers. Que dit ce rapport? Je vous rappelle, si vous le savez, il s'agit d'un rapport de 500 pages. Il concerne une soixantaine de contrats, 61 exactement des contrats, mais aussi des conventions minières, des contrats signés pour la plupart en période des conflits. Il concerne entre autres la Gécamine, l'Amiba, l'Okimo et la Sodinco. D'après les résultats de la révisitation, il n'y a presque pas de contrat dit normal ou catégorie A, selon le langage de la Commission. La majorité des contrats est classée catégorie B, c'est-à-dire à renégocier, mais la Commission propose que soient résiliés une vingtaine des contrats, dont 6 partenariats avec la Gécamine, c'est la catégorie C. Les raisons de résiliation vont du statut flou concernant les signataires au manque d'évaluation des gisements exploités. Notre confrère Georges Kamoujova en a épinglé quelques-uns, on l'écoute.
Dans le contrat avec Anvil Mining, la commission constate que l'État ne gagne absolument rien. La compagnie exploite le cuivre et l'argent près de Kilwa au Katanga, en particulier les gisements de Dikoulouchi et Kapulo dont la valeur minimale est estimée à 1 milliard 230 millions de dollars. Au sud Kivu, le contrat avec Banro est pointé catégorie C. À résilier. Banro exploite l'or à Kamituga, là où il y avait son Minki, la société minière du Kivu. Banro a toujours été exempté d'impôts et des taxes et devrait donc payer près de 5 millions de dollars. Toujours à résilier, mais cette fois-ci au Kasai, il s'agit de 50 000. La commission estime que la société a exclu la MIBA à la signature du contrat alors qu'elle exploite ses gisements. Elle n'a entrepris aucune activité de recherche comme mentionné dans la convention. La sud-africaine First African Diamonds, qui détient 80% des parts dans Singamine, devrait verser 198 millions de dollars à la MIBA. Autre contrat à résilier, c'est celui signé entre KHGM et Sodimico pour l'extraction et la vente du cuivre à Kimpe au Katanga. KHGM a donné à la commission des études de faisabilité en polonais, mais cela n'a pas empêché la commission de mentionner l'inexistence des travaux sur terrain. KHGM, en effet, devait construire une usine au Katanga.
Valérie Moukassa, vous êtes conseiller juridique du ministre des Mines, je l'ai dit. Vous avez suivi cet élément de notre confrère Georges Kamoujova. Évidemment, c'est un rapport de 500 pages. Vous avez sûrement d'autres éléments à ajouter par rapport au contenu de ce rapport sur la révisitation des contrats miniers.
Merci et bonsoir aux auditeurs. Je me rends compte que le rapport de la révisitation de contrats miniers a été effectivement lu par plusieurs. C'est un rapport assez volumineux, dont on ne pourrait pas nécessairement et de manière exhaustive retenir tous les points saillants qui devraient être portés à la connaissance de tous. Mais là, le résumé qui a été fait reprend de manière assez fidèle ce qui a été retenu en ce qui concerne les entreprises ou le partenariat et convention appelé éventuellement à la résiliation. Parce que je dis éventuellement, parce qu'il est donné à tout le monde la possibilité de revenir à la table de négociation. Donc voilà brièvement ce que je peux dire en ce qui concerne ce rapport. Mais ce rapport, non seulement il a eu de reproches, de recommandations, des exigences à l'égard des entreprises vouées à l'éventuelle résiliation, mais également aux entreprises ou partenariats voués à la renégociation. Parce que tous ces partenariats, quelque part, ont des faiblesses.
Est-ce que vous êtes satisfait, excusez-moi, vous êtes satisfait du résultat auquel vous êtes parvenu, parce que vous avez fait partie de la commission gouvernementale qui a révisité ces contrats?
Oui, moi, je suis effectivement satisfait du travail que nous avons abattu. Je suis plus satisfait encore parce que plusieurs ont lu ces documents et estiment que c'est un document de grande valeur.
Qu'est-ce qu'on pense alors dans le camp des sociétés minières, notamment DCP, dont vous êtes président du conseil d'administration, Simon Tumawaku, satisfait également comme Valérie Moukassa?
Bonsoir aux auditeurs d'abord. Nous avons reçu le rapport effectivement de la commission et bien avant ça, le ministre nous avait aussi écrit déjà pour nous faire part de problèmes ou de questions qui sont en suspens et qui doivent être renégociées. Nous suivons la procédure qui a été mise en place et donc nous allons nous défendre par rapport aux points qui étaient soulevés par la commission.
Oui.
Je crois que c'est de bon augure. En fait, le travail de la commission est un travail à péter. Maintenant, il faut aller au fond des choses et régler les questions qui sont en suspens et voir et éventuellement féliciter ceux qui sont sur le terrain qui font du travail et finir ceux qui ne sont pas sur le terrain et qui ne font rien.
Et vous êtes dans quelle catégorie des contrats à renégocier ou à résilier?
Nous sommes dans la catégorie B, c'est-à-dire la catégorie de contrats à renégocier. On nous reproche un certain nombre de griefs auxquels nous avons répondu. Donc, je prends, par exemple, au niveau de conclusion des situations arbitraires des parts sociales avant le dépôt des études de faisabilité. La relation entre les deux, je ne vois pas comment la commission est arrivée là-dedans, mais on pourra les discuter. Des équilibres dans la répartition des parts sociales, création de DCP-SRL en violation de l'article 4.3 de la Convention sur un appel sur la remise des études de faisabilité. Ce sont des points peut-être parce que la commission devrait avoir effectivement, en disant rien que le contrat, et qu'on n'a pas l'historique du contrat et les étapes que le contrat a suivi, c'est normal qu'il se pose certaines de ces questions qui sont, à mon avis, très faciles à répondre.
Ouais. Donc on retient, parce que votre ligne n'est pas très très bonne, on retient que vous faites partie de la catégorie des contrats qui sont à renégocier, et donc vous êtes parmi mais sociétés à qui le gouvernement a demandé certaines explications sur des points à éclaircir. Et donc, vous avez déjà répondu, si on vous comprend, vous avez déjà répondu ou réagi à cette démarche du gouvernement. Mais on va voir avec vous, Jean-Pierre Mouteba, vous êtes de la société civile, je rappelle, président du conseil consultatif de l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives. On sait que la société civile a fait beaucoup de pression, ça on doit le dire, beaucoup de pression pour que finalement ce contrat soit publié. Donc vous devez naturellement être satisfait de la publication de ce rapport.
Oui, naturellement, là, nous sommes satisfaits parce que, il faut dire, en son temps, le 5 novembre 2001, les syndicats de représentatifs à l'Orge Canine avaient organisé une marche pour dénoncer les contrats léonins. Et dans ce contrat, il y avait notamment le contrat Kinross Forest et le contrat DCP. Et en son temps, quand nous avions négocié avec le gouvernement, notamment le chef de l'État qui nous avait reçu le 8 novembre 2001, monsieur, son excellence, le ministre qui est avec nous dans cette émission, Simon Toumawaku était ministre de Mines et il avait négocié avec nous. Dans son temps, nous avions signé un protocole d'accord comme quoi le contrat dont il était question ne devait pas être signé parce que ce contrat était déjà léonin. Donc voilà des choses que, en fait, aujourd'hui nous avions dénoncé en son temps, qu'aujourd'hui la commission du gouvernement vient de confirmer.
Oui.
Donc moi je me dis que la société civile dans son ensemble devrait être contente du fait que ce contrat-là soit déclaré aujourd'hui léonin, comme c'était dit déjà en son temps.
Oui, mais ça fait, je dirais, plus de la moitié des contrats qui sont à renégocier et presque la moitié qui devraient être résiliés. Donc vous pensez que la commission a fait du bon boulot?
Oui, ce que je dis, c'est qu'en fait, pour la société civile, depuis tout le temps, toutes ces données qui ont été publiées dans les rapports, nous les avons depuis quelques années, donc tous les contrats étaient complètement léonins. Et même si aujourd'hui on estime que certains devaient être renégociés, en principe tous les contrats devaient être annulés. Mais nous avions estimé que nous, société civile, en ce qui concerne les contrats, on ne pouvait pas annuler un seul contrat du fait que le gouvernement a été partie prenante, avait signé, avait négocié et tout ça, d'une part. D'autre part, le gouvernement, à travers ce mandataire, dont aujourd'hui son excellence qui est là, avec plus tard aux négociations, donc le gouvernement ne pouvait pas, en tant que partie prenante, annuler un seul contrat. Donc le gouvernement a aussi l'obligation aujourd'hui de renégocier tous les contrats de manière à ce qu'on rééquilibre et que le peuple congolais puisse trouver son compte dans l'exploitation des ressources naturelles du pays.
Est-ce que vous voulez dire que tous les contrats doivent être résiliés?
Non, nous voulons dire que tous les contrats doivent être renégociés. En fait, on doit renégocier du fait que le gouvernement était partie prenante, soit directement à travers les ministères et tout ça, ou soit indirectement à travers les mandataires. Donc, de ce fait, le gouvernement ne doit pas annuler un seul contrat, mais il doit plutôt appeler les autres parties et renégocier tous les contrats de manière à rééquilibrer et non pas aujourd'hui dire qu'il faut annuler tel ou tel contrat. Donc, nous pensons, nous, société civile, qu'il faut rééquilibrer tous les contrats de manière à ce que le peuple congolais puisse se retrouver dans ces contrats-là qui ont été signés dans des circonstances que nous connaissons et que nous avons dénoncées en son temps.
Oui. Et alors, Valérie Mukasa, qu'est-ce que ça veut dire? Sur la soixantaine de contrats miniers, aucun n'a été jugé viable. C'est dû à quoi? La corruption ou le manque d'expertise dans le chef de délégué du gouvernement qui ont négocié ces contrats?
Ce n'est ni l'un ni l'autre. Les membres de la commission de révisitation de contrats miniers ont examiné les contrats sur des bases tout à fait objectives. Il y a des contrats ou des partenariats pour lesquels la commission penchait tout naturellement à la catégorisation A, mais par le fait que ce contrat ont été entachés de certaines faiblesses, notamment lorsque le ministre Toumawaku a parlé de la répartition arbitraire des parts sociales, la quasi-totalité de ces contrats ou de ces partenariats n'a pas connu une répartition de parts sociales sur de bases équilibrées et de bases solides.
C'est dû à quoi justement? C'est parce que ceux qui ont négocié ces contrats de la part du gouvernement congolais, parce qu'ils n'étaient pas compétents, ou c'est parce que certaines sources parlent de pot de vin?
Ça, je ne saurais l'affirmer parce que je n'ai pas été là où les contrats ont été signés ou négociés. Mais seulement, on peut constater que, dans une certaine mesure, ceux qui répondaient pour le compte du gouvernement, c'est-à-dire les mandataires des entreprises publiques, n'ont pas eu assez de force de négociation pour faire valoir l'intérêt tant de leurs entreprises que l'intérêt du pays. C'est ce que nous avons constaté et nous avons relevé cela dans nos conclusions en forme de recommandations et d'observations.
Okay. Jean-Pierre Motéba, vous pensez que c'est parce qu'il n'y avait pas de force de négociation de la part des délégués du gouvernement dans la soixantaine des contrats miniers qui ont été révisités?
Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était le manque de compétences ou d'expérience, parce que si je ne prends l'exemple que de la Gécamines, les ingénieurs qui ont eu à négocier ont des compétences affirmées dans le domaine.
Mais alors, c'est dur.
Je crois qu'il y a eu beaucoup de pressions politiques. Il y a eu ces circonstances-là de guerre qui nous connaissions. Et c'est ce qui fait qu'ils ont signé des contrats de manière déséquilibrée avec toute cette pression politique qu'il y a eu. Je crois que c'est peut-être ça la vie plutôt de la société civile. C'est comme ça qu'on s'est dit qu'il faut qu'on essaie de rééquilibrer, qu'on essaye de comprendre que non seulement les mandataires ont une responsabilité, mais aussi le gouvernement, parce qu'il y avait certains membres du gouvernement qui étaient impliqués, qui donnaient des injonctions, qui donnaient des directives pour signer tel ou tel contrat, malgré que les déséquilibres étaient constatés et même dénoncés par ceux-là même qui ont signé, à qui on a imposé la signature. Donc c'est un peu ça, la façon dont on peut comprendre ce contrat.
Donc pour vous, c'est la pression suite au contexte, donc contexte de guerre, et pas de corruption. Vous pensez que c'est le cas aussi, Simon Tumawaku, vous êtes sûrement de ceux qui ont représenté ces entreprises-là dans ces partenariats avec l'État congolais.
Oui, mais je crois qu'il faut qu'on distingue aussi, parce qu'on met tout le monde dans le même panier et on dirait qu'on a aussi, on essaye de généraliser la période. Il y a des contrats il y a des conventions. Parmi les contrats dont on parle, il y a des conventions qui ont été signées avant l'entrée en vigueur du code minier, et il y a des partenariats qui sont venus après le code minier. Et je crois que c'est ce travail-là que malheureusement la commission n'a pas effectué. Et maintenant, il faut en plus juger de chaque contrat, quel est le processus que chaque contrat a suivi pour arriver au bout, pour que ce contrat soit valable sur le terrain. C'est important. Ici, évidemment, moi, je fais l'avocat du diable pour mon contrat de sécurité de la DCP, parce que on parle peut-être de pression politique. C'est sûr que les gens qui ont négocié, je parle de la Gécamines, sont très valables. Absolument, je confirme cela. Mais vous prenez un contrat tel que la DCP, je vous l'ai dit, ça a été négocié d'abord au niveau du comité de gestion. Après, le comité de gestion, on l'a présenté au niveau du conseil d'administration, c'est approuvé.
Il faut juste préciser que la DCP, c'est votre entreprise minière et que vous êtes basé à Colosi, c'est ça?
Oui, la DCP, c'est un partenariat entre GES et Gécamines, et nous sommes basés à Colosi.
Oui.
Actuellement.
Poursuivez.
Et donc, ce que je disais, donc, après le ministère des Mines, le projet a été défendu, et ça, c'est moi, personnellement, je l'ai défendu au niveau de l'Ecofin, et je vous rappelle que c'était dans la période 1+4.
Donc, il n'y avait plus de guerre, quoi, c'est ça que vous voulez dire.
Oui, ce n'était plus l'état de guerre, et c'est seulement après, donc, cette troisième étape que le contrat a été approuvé au niveau du gouvernement. Donc, voilà les différentes étapes que le contrat de CPA suivi. Je ne défends pas les autres, je ne sais pas dire que tous les autres ont suivi le même processus, et donc c'est important de pouvoir différencier les états suivis à chaque projet pour voir là exactement où est la faille. Parce que là, quand M. Jean-Pierre Motéba traite tous les contrats des Léonins, à ce moment-là, on dit, mais il faut définir ce que c'est Léonin. Comment on a pu... C'est bien comme si on avait basé tout le système qu'on a mis en place pour pouvoir avoir ce contrat-là. Et je crois que ce sont quand même des mots assez durs. On doit pouvoir faire la distinction entre contrats. Et comme j'ai dit, il y a des contrats qui ont été signés,
donc,
qui ont des effets,
ouais,
qui sont sur place,
ouais,
on voit qui travaillent, qui investissent, et d'autres qui ne font rien, et donc il faut savoir préparer les deux types de
contrats. Ouais.
Pour qu'on puisse redémarrer sur de bonnes routes.
Voilà. Alors, on revient vers vous, Valérie Moukassa. Il y a certains termes, peut-être, qui peuvent prêter à confusion. Il faut prendre le cas du partenariat SAKIMA. Là, c'est un partenariat où on retrouve l'État congolais, la Sominki et Banro. Et lorsque, dans le rapport, il est mentionné qu'il faut mettre fin au partenariat SAKIMA, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour une société comme Banro? Ça veut dire quoi? Est-ce que ce contrat, il faut le résilier ou il faut le renégocier?
Là, c'est un cas assez spécifique, parce qu'il faut spécifier ici en disant qu'au départ, c'était une convention minière, mais par la suite, il y a eu des différends entre le partenaire de l'État dans cette convention, et ce différend a amené à les partenaires, l'État et son co-contractant dans la convention, à une table de renégociation. Et à cette table, ils ont signé un protocole d'accord qui a défini les termes dans lesquels la convention devait être entendue. Et cet accord définissait notamment que les deux parties s'est séparées et que Banro ne pouvait plus se prévaloir de tous les avantages tirés de la convention minière.
Oui, simplement, ça veut dire quoi? En un mot, qu'est-ce que ça veut dire pour que les auditeurs comprennent?
Ça veut dire que l'État et Banro s'étaient déjà désengagés de la convention minière et que, subséquemment, Banro ne pouvait pas se prévaloir des avantages de cette convention. Mais il a été constaté au cours de l'examen de la révisitation de contrat minier que Banro a continué à se prévaloir des avantages tirés de la convention minière.
Oui, est-ce que c'est un contrat à résilier ou à renégocier?
Ça, ce n'est pas à résilier, ce n'est pas à renégocier, c'est simplement à résilier parce que les parties elles-mêmes avaient déjà statué là-dessus.
Merci beaucoup Valérie Moukassa. Nous poursuivons cette émission, publication du rapport sur la révisitation des contrats miniers. Que peuvent attendre concrètement les Congolais de ce travail? C'est pour la deuxième partie de cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Que peuvent attendre concrètement les Congolais de la révisitation des contrats miniers du Katanga au Kassa oriental ainsi que dans la province orientale? Les Congolais interrogés saluent la révisitation de certains contrats miniers, car pour certains, les entreprises minières ne contribuent pas assez au développement des provinces minières, tandis que pour d'autres, ces entreprises ne remplissent pas leurs engagements auprès de l'État congolais. D'autres aussi s'interrogent sur le sort des mandataires de l'État ayant négocié tous ces contrats. Leurs propos ont été recueillis grâce au réseau de Radio Okapi. On les écoute.
Moi, c'est M. Jules Kayabito, membre de la Société civile d'écologie. Ma réaction et éventuellement celle de la base. Est-ce que cette révisitation, est-ce la première, est-ce la dernière? Et pourquoi ne pas faire un travail définitif? Ensuite, on épingle les entreprises qui sont à Colusi. Mais tout le monde sait que DCP a fusionné avec Col. Mais on demande à ce qu'on revienne sur les accords de DCP, alors que DCP, juridiquement, n'existe plus. Est-ce une façon de voiler la réalité des mauvaises signatures, des mauvais accords?
Je m'appelle Armand Amala Osila, je suis le président de la société civile à Kolwezi, dans la province du Katanga. Par rapport à la révisitation du contrat minier de la ville Manning, nous saluons d'abord l'action. Finalement, l'entreprise ne contribue au développement du pays, ou plutôt du village environnant où l'entreprise est installée.
Thierry Lukoji, assistant à l'ISGT.
Vu le montant que l'AMIBA doit avoir, n'est-ce pas, pour relancer cette activité, je crois que c'est en détail.
C'est en détail.
160 millions de dollars, c'est beaucoup. Là, on pourra acheter les engins, on pourra améliorer cette fois mieux pour relancer l'AMIBA.
Monsieur le Bakudenga, Guzmai, nous ne voulons pas que l'État congolais puisse profiter de cet argent pour pouvoir faire n'importe quoi et que les activités de l'AMIBA prennent toujours comme ça. Ça c'est trop pour le moment.
Et le plus grand problème que nous évoquons dans ce contrat-là de l'Okimo-Lajeka, c'est le problème de l'emploi que l'Ajeka devait créer. Il était promis qu'en dehors des emplois qui existaient au sein de l'Okimo, c'était 1640 emplois qui existaient déjà. Ces emplois-là devaient être protégés et que l'Ajeka promettait d'en créer d'autres. Vous voyez, ça serait quand même une vie sociale qui est renouvelée. Mais aujourd'hui, au lieu même de conserver le peu d'emplois qui existaient à l'Okimo, d'abord ils les ont supprimés, ils n'en ont pas créé. Deuxième aspect, le contrat que l'Okimo a eu avec l'AGK portait sur 2000 km². Aujourd'hui, c'est toute la concession, c'est 6400 km².
Simon Toumawaku, quand on suit ces Congolais qui parlent, on sent que l'impact est quand même négatif, l'impact social de vos entreprises sur terrain.
Ce n'est pas en tout cas le cas de la DCP. D'ailleurs, la commission l'a relevé dans son rapport. Si vous avez lu le rapport, je vais rapidement point 5, c'est bien que c'est pas le cas de la DCP. Outre le fait que le projet DCP a produit 1270 emplois, DCP a réalisé quelques actions en santé sociale dans le domaine de la santé, de l'éducation et des infrastructures, parmi lesquelles on peut citer notamment la réhabilitation de la pharmacie du magasin et d'un pavillon de l'hôpital Mangézi, dont un médicament...
Vous parlez d'un pavillon, c'est ça?
Allô?
Vous parlez d'un pavillon réhabilité, c'est ça?
Oui, d'un pavillon de l'hôpital qui a été réhabilité. Les travaux de forage, je vous signale qu'on a pu alimenter l'hôpital de Mangézi, qui est l'hôpital de référence de Colégie, il n'avait pas d'eau. Et vous pouvez imaginer un hôpital qui travaille sans eau. Donc on a pu forer et alimenter l'hôpital gratuitement à nos potables. Et ensuite, on faisait la campagne de sensibilisation, de formation sur la malaria et les VIH/SIDA. Ça, c'est parmi les points à faire. Donc, il y a la réhabilitation de la route de Kolozi-Nguba où nous avons injecté près de 5 millions de dollars là-dedans. Et donc, voilà des interventions qu'on a faites sur place, sans compter des petites interventions sur les radios communautaires, par exemple la radio Émergence et la radio Malta que nous avons remis pour que la population puisse être bien informée. Mmh. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de contrats qui ont été signés, et malheureusement, il y a très peu qui font des actions concrètes sur le terrain, beaucoup n'en font pas, et donc il faut absolument savoir distinguer ces deux types de partenariats et encourager ceux qui font des choses sur place, qui investissent réellement, pour qu'ils continuent à investir de plus et assurer l'emploi pour la population locale.
Oui, pourtant, malgré tout ce que vous dites, votre contrat, le contrat avec votre entreprise n'est pas viable, il est dans le même sac.
Il est dans la catégorie B, qui veut dire qu'il est à renégocier. Je vous dis, nous avons répondu à la lettre du ministre, nous attendons la commission qui sera instituée par le gouvernement pour poursuivre les négociations sur la table.
Oui.
Et les points qui ont été soulevés sont des points à débattre, ce ne sont pas des points qui peuvent nous décourager quant à l'avenir.
Oui. Jean-Pierre Mouteba, vous êtes surtout de la société civile. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'impact social de ces entreprises minières qui, il faut le dire, encaissent quand même beaucoup d'argent? Comment on peut expliquer cela?
En ce qui concerne la société civile ici, je vais d'abord préciser que la société civile la et pas des...
Non. Là, on a un petit problème avec vous, Jean-Pierre. Il faut peut-être vous déplacer un tout petit peu. On va revenir vers vous. Déplacez-vous un tout petit peu. Peut-être que ça va améliorer la qualité de votre ligne. Mais en attendant, on revient vers Valérie Mukasa. Maintenant, le contrat est là. C'est du moins le rapport, je veux dire, est connu. C'est quoi la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est tout naturellement la renégociation. Là déjà, le gouvernement a mis sur pied un panel des ministres qui devront assurer cette renégociation. Ils sont en train de préparer certainement, je le pense, le terme de référence sur base desquels la renégociation devra se faire. Et les entreprises de partenariat qui ont été ciblées pour la renégociation seront incessamment invitées.
Donc on attend la renégociation de... Vous voulez dire la renégociation des 61 contrats, tous, ou de seulement ceux qui étaient dans la catégorie A, hein, donc à renégocier.
Dans toutes les entreprises, tous les partenariats ont reçu une notification. Sur la notification, il y a eu des reproches, des exigences et pour quelques-uns des recommandations. Tant pour ceux qui sont en B que ceux pour qui sont en C. Donc, à résilier.
Oui.
Mais alors, vous permettez...
Pour être simple, est-ce que c'est tous les contrats miniers qui sont concernés par la renégociation, finalement?
C'est relatif. Si vous m'avez permis de finir ma phrase, vous aurez peut-être compris.
Oui.
Les notifications ont été lancées et les partenariats ont réagi. C'est sur base de la réaction des partenaires ou des entreprises que le gouvernement va tout naturellement dégager s'il s'y est pour une entreprise qui était en C d'être renégociée ou si cela n'est pas évident.
Donc même si le contrat devait être résilié selon le résultat de la commission, mais une entreprise qui a signé ce contrat a la possibilité de le renégocier, si on comprend.
Si le grief ou les reproches qui ont été formulés contre elle s'avèrent être des griefs auxquels cette entreprise porte des réponses positives, tout naturellement le gouvernement sera appelé à revoir sa position en ce qui concerne la renégociation et faire passer cette entreprise dans la catégorie de renégociation.
On va y revenir, hein, parce que là, il y a des craintes, notamment dans le camp des ONG. On retrouve d'abord Jean-Pierre Mouteba. On espère que votre ligne s'est améliorée, Jean-Pierre Mouteba.
Oui, tout à fait. Ce que je disais tantôt,
oui.
C'est que pour ce qui concerne le contrat dont DCP, parce que ce contrat-là porte sur des usines, des gisements et tout, nous pensons qu'il est d'abord préférable que les travailleurs chez Camille, les ex-travailleurs notamment, puissent trouver leur compte, c'est-à-dire qu'on ait des intérêts, qu'on leur paye leurs droits, notamment, pour que ces travailleurs-là puissent partir comme ils sont partis, mais de manière honorable. Parce qu'il est incompréhensible que des personnes qui ont travaillé dans cette société pendant 20 ou 30 ans puissent sortir avec 1 500 $, alors que ces usines-là sont cédées de manière gratuite à des entreprises qui aujourd'hui vont faire de l'argent sur le dos de ces travailleurs-là. Donc ça, c'est la première condition. Je crois que les amis qui me suivent à Colésie, à Likasi, à Lubumbashi, sont conscients que cela, c'est le premier devoir de ces contrats. Donc il faut que ces entreprises-là puissent payer le pas de porte, parce qu'il est incompréhensible que personne, par exemple, ait payé un pas de porte qui doit déjà être revu, mais que Paul, que DCP n'ait rien payé alors que ce contrat-là porte sur des usines, sur des gisements, sur Kovkoura, sur l'usine de Milou, sur le concentrateur de Kamoto, les deux concentrateurs Kamoto et Dima, sur la mine de Kamoto qui ont une valeur réelle. Donc ça, c'est des problèmes, et des problèmes sérieux. Donc nous pensons qu'il faut que le gouvernement et les entreprises puissent aujourd'hui se mettre d'accord pour que ces travailleurs qui étaient sortis de manière déshonorable puissent être payés par les pas de porte qui seront payés.
Les pas de porte, c'est quoi?
Ça, c'est déjà ça.
Les pas de porte, c'est quoi?
Comme l'a dit le conseiller.
Jean-Pierre?
Oui.
Ou le pas de porte, c'est quoi?
Le pas de porte, c'est que c'est comme on dit chez nous en Swahili, qui font la langue. Quand vous voulez vous marier à une fille, vous payez d'abord quelque chose avant de vous présenter. Les entreprises sont venues se présenter à la GECAMIN. On signe avec la GECAMIN des contrats sans rien donner par rapport à la valeur des usines et tout. Or, personne n'a payé un pas de porte. Et certaines autres entreprises ont payé des pas de porte. Donc, nous exigeons ici que ces entreprises puissent payer un pas de porte et que dans ces pas de porte, qu'on sorte de l'argent pour payer ces autres travailleurs qui ont eu à travailler pendant des années pour produire, pour faire de ces usines ce qu'elles sont aujourd'hui.
Oui, ça c'est déjà
Ces usines n'ont pas fait l'étude de faisabilité. Ces usines n'ont pas respecté leurs obligations par rapport au contrat. Il était question que DCP amène 30 millions pour que la GECAMI réhabilite notamment l'usine de Chitou. Il était question que, bon, donc il y a beaucoup de choses que ces entreprises n'ont pas respectées. Nous ne demandons pas d'annuler des contrats, mais nous voulons que ces entreprises puissent respecter leurs obligations vis-à-vis de la GECAMI et de l'État congolais, et notamment que ces entreprises puissent payer le pas de porte, et que ce pas de porte sert notamment à payer ces ex-travailleurs qui ont dû
On a compris, Jean-Pierre. D'abord, on va laisser Simon Tomoako réagir parce qu'il est directement concerné. C'est en fait son entreprise. Simon Tomoako, vous avez suivi Jean-Pierre Mouteba. D'après lui, vous avez acquis presque gratuitement les gisements de la GECAMIN. Mais comment est-ce que vous pouvez payer 1 500 $ aux travailleurs de la GECAMIN, des ex-travailleurs de la GECAMIN?
Je vais réagir contre M. Jean-Pierre Mouteda, et c'est dommage parce que quand nous sommes en dialogue entre les Congolais, nous devons dire les vérités. Il faut lire les rapports, et quand vous parlez d'une société, on suppose que vous connaissez bien la société. Je vais répondre à la première question.
Rapidement.
Rapidement. Nous avons payé les pas des portes, donc ça réflexion là-dessus tombe. Ok, payer les engins de
vous avez payé donc ce montant là.
Pardon.
Vous avez payé ce montant là que vous appelez pas de porte. Donc c'est pas
nous
une
somme. Nous avons payé le montant de pas de porte à la Zécamine et M. Jean-Pierre Mouteba peut demander à la Zécamine et c'est même marqué dans le rapport.
Est-ce que les travailleurs en ont bénéficié? Les ex-travailleurs de la Zécamine, est-ce qu'ils en ont bénéficié?
Ça a été payé à la Zécamine. Maintenant, c'est que la Zécamine en fait, ça c'est ce n'est pas le problème des DCP. Vous en conviendrez avec moi. Et pouvoir payer les travailleurs de Zécamine pour qu'ils sortent honorablement. Nous avons pris l'engagement parce que nous savons que la Zécamine ne peut pas payer les travailleurs et nous attendons toujours que la Zécamine nous transmette les états de sortie, ce qu'on appelle les arriérés de la Zécamine. Nous avons pris l'engagement de dire, ok, nous allons assurer ce paiement parce que la Zécamine ne pourra pas le faire.
Donc, on attend
que la Zécamine, qu'on paye d'abord les royalties à la Zécamine et que la Zécamine vous paye, on a dit, ok, nous nous garantissons que nous allons vous payer de la part de la Zécamine pour que vous puissiez sortir dignement de vos services que vous avez rendus à la Zécamine.
Voilà.
Je suis désolé pour M. Jean-Pierre Mouteba, il doit s'imprégner des partenariats. On ne doit pas mélanger tout le monde, c'est comme dire qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il faut savoir distinguer, et quand on parle d'une société, il faut le connaître avant de pouvoir émettre des points de vue.
Merci beaucoup. On va d'abord prendre les réactions des auditeurs avec Claude Kianza qui fait son entrée dans ce studio. Bonsoir Claude.
Bonsoir Jean-Claude. Mati Bawere, depuis Goma, dans le Nord Kivu, pense que revisiter ou non ces contrats n'a rien à voir avec la situation sociale des Congolais. C'est une distraction pure et simple, conclut-il. Mirugi Nestor de Kisangani, dans la province orientale, estime que publier le rapport est une bonne chose, mais il faut aussi avoir la volonté politique de sanctionner ceux qui ont bradé les richesses congolaises pour les intérêts étrangers. Pour Sylvain Kastongo de Manono au Katanga, revisiter ou non les contrats miniers profite à une seule classe d'individus et non aux Congolais moyens victimes de contrats précédents, affirme-t-il. Tandis que Congo Kababa de Mbujima et au Kasaï oriental suggère au gouvernement de ne pas négocier pour les contrats destinés à la résiliation. Enfin, Senga de Punia au Maniema pose la question suivante. Comment peut-on résilier le contrat de Banro alors que cette entreprise a abandonné plus de 12 000 travailleurs sans décompte final?
Merci beaucoup Claude Kianza. On commence avec vous, Valérie Moukassa, voilà, puisque vous représentez le gouvernement, vous êtes conseiller juridique du ministre des Mines. Vous avez parlé, pour l'instant, la suite, c'est la renégociation de ces contrats. Qu'est-ce que vous pouvez dire lorsque Mati Bawere, depuis Goma dans le Nord Kivu, lui qui pense que revisiter ou non ces contrats, ça n'a rien à voir avec la situation sociale des Congolais, c'est une distraction pure et simple. Et puis vous avez Mirugi Nestor, estime que publier le rapport est une bonne chose, mais il faut avoir la volonté politique de sanctionner ceux qui ont bradé les richesses pour les intérêts étrangers. D'abord, la question de Mirugi Nestor. Vous allez renégocier, mais alors, les personnes qui ont engagé le gouvernement, parce que le constat est que l'État congolais est perdant dans ces différents contrats. Alors, les personnes qui ont négocié ne vont pas être poursuivies, par exemple. Il n'y aura pas d'enquête, rien contre ces personnes.
Disons ça, c'est une question à laquelle seul le gouvernement peut donner des réponses. Tout ce que je peux dire à cette étape, c'est que la commission avait reçu mission d'examiner les contrats et de proposer éventuellement des modalités de révision pour leur correction afin de les rééquilibrer. C'est ce que la commission a fait. Il n'avait pas été demandé à la commission de faire un audit des actes posés par les mandataires publics. Donc là, il faut faire un distinguo entre la mission de la commission et l'audit des mandataires publics. Donc, ce n'était pas de la compétence de la commission.
Oui, j'enchaîne avec, toujours sur ce sujet-là, avec Congo Kababa de Mbujima au Kasaï oriental, qui dit, pas question
de négocier pour le contrat destiné à la résiliation. Et à ce sujet, des ONG sollicitées, qui sont d'ailleurs, elles ont été citées en fait par l'agence France Presse, il y a notamment l'Institut néerlandais, NISA, et puis Global Witness, ainsi que RED, par exemple, on accuse le gouvernement d'être pressé dans la renégociation, il semble que certaines sociétés sont déjà en train de renégocier, alors que ce processus n'a pas démarré officiellement. Pourquoi ?
Moi, je crois qu'on ne devrait pas suivre ce que dit tout le monde ou ce que disent les ONG. Ce sont les mêmes ONG qui ont demandé que le rapport soit publié, ce sont les ONG qui ont demandé que cela se fasse de manière claire, limpide, que ça se fasse rapidement. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Le gouvernement s'est engagé dans un processus, c'est le gouvernement qui en assume toute la responsabilité. Par rapport à la question des entreprises proposé à la résiliation. Il faut considérer que le rapport de la commission de résiliation de contrats miniers, c'est un travail humain qui peut être entaché, qui peut être aussi subir certains reproches. Lorsque vous reprochez à un partenariat de n'avoir pas fait telle ou telle autre chose, et que ce partenariat vous prouve que telle et telle autre chose ont été effectivement faites, quelle sera votre réaction ? C'est tout naturellement de revoir la cote que vous aviez donnée.
Oui, on va voir le point de vue de Jean-Pierre Moutéba là-dessus. Jean-Pierre, par rapport à ces ONG, parce que vous êtes de la société civile, ces ONG qui sont d'abord dénoncent le fait qu'il y a une commission ministérielle qui est mise en place pour renégocier ces contrats, commission dirigée par ministre d'État Zanga Mobutu, et ces ONG, je les ai citées, notamment Global Witness, d'abord sont réservées par rapport à la qualité même impartiale de cette équipe ministérielle. Qu'est-ce que vous en dites?
En fait, je voulais d'abord répondre à la question d'un de vos auditeurs.
Allez-y rapidement, parce qu'il n'y a plus de temps, allez-y rapidement, oui.
Je dis qu'en ce qui concerne les signataires, parce que ça c'est un problème. Nous sommes dans un pays de droit où nous devons aujourd'hui réguler les comportements qui sont responsables ou des comportements qui ne sont pas conformes à la bonne gouvernance. Oui. On a pensé que les signataires étaient différents contrats qui aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement pour eux, ils se retrouvent dans les différentes entreprises. Vous allez chez Toll, vous allez chez DCP, vous allez dans toutes les entreprises. Quelques jours après, ils se retrouvent dans ces mêmes entreprises pour les engager, pour faire le travail. Là, ce sont des choses que la société civile dans son ensemble dénonce et dénonce encore aujourd'hui. Là, je veux que ça soit dit et que les Congolais le savent. Alors, pour ce qui concerne les ONG, nous savons bien que les ONG ont peut-être des agendas qui sont divers, mais les ONG estiment que tel processus de renégociation doit aller jusqu'au bout, mais doit être beaucoup plus ouvert. Que le gouvernement n'en fasse pas un problème du gouvernement, d'autant plus que le gouvernement est en même temps partie prenante dans ces différents contrats. Et nous savons que les ces hommes-là qui sont au pouvoir, ministres et consorts, ont signé ou été dans les affaires et ont des actions dans ces entreprises-là. On ouvre cette affaire-là, on laisse aussi à la société toujours une porte ouverte pour entrer avec ces experts qui seront désignés par la société civile.
Merci,
un travail qui va convaincre et le peuple congolais et la communauté.
Merci Jean-Pierre Moutéba. Simon Toumawaku, on va terminer par vous parce qu'il ne reste plus qu'une seule minute. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que dénoncent les auditeurs, notamment la sanction à l'endroit de ceux qui ont représenté le gouvernement dans la signature de ces contrats? Vous dites quoi? Notamment vous, hein?
Oui, juste pour conclure, merci beaucoup. Je crois que le gouvernement a initié un processus qui est en train d'aller vers la conclusion. Nous devons terminer ce processus proprement pour que nous soyons respectés de tout le monde. Et il ne faut pas commencer déjà à dire que tel doit être fini.
Oui, mais est-ce qu'il faut le terminer proprement, c'est-à-dire avec le gouvernement seul, ou bien il faut intégrer les experts internationaux et puis la société civile aussi?
Mais ça, c'est une décision gouvernementale. Je crois que c'est le gouvernement qui a initié ce processus-là. C'est au gouvernement maintenant de pouvoir donner des conclusions jusqu'où elle est arrivée. Et si le gouvernement estime que les autres doivent participer, oui, mais le gouvernement doit prendre ses responsabilités parce que le gouvernement doit répondre devant le peuple. Absolument. Donc, c'est tout à fait normal qu'il amène le processus jusqu'au bout.
Merci beaucoup, Simon Tomahawku. C'est avec vous que nous mettons un terme à cette émission. Alain Goy était à la technique, Anselme Sissimon Béret a réalisé pour vous cette émission. Claude Tianza l'a préparée. Merci à tous de nous avoir suivis.
Oh, Kathy.